La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Frédéric Potier, préfet, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT. Vous publiez Pierre Mendès France ou la foi démocratique, publié aux éditions Bouquin. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va d'abord rappeler qui était Pierre Mendès France, homme politique de gauche qui a été président du Conseil, un homme décédé peu après l'élection de François Mitterrand, il y a 40 ans. On reviendra sur deux aspects de son parcours tout à l'heure, la décolonisation et la politique étrangère de la France. Mais d'abord, en quelques mots, qui était Pierre Mendès France et pourquoi vous êtes-vous intéressé à lui ?
Alors, Pierre Mendès France est né en 1907 et il est mort en 1982, vous l'avez dit, hein, quelques mois après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, et c'est finalement une figure un peu oubliée de la gauche française, parce que c'est une figure un peu atypique, c'est un peu sa mauvaise conscience, c'était quelqu'un qui était à la fois très rigoureux sur le plan économique, mais quelqu'un qui avait aussi une conscience très aiguë de ce que devait être l'éthique en République, et donc voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être passé un peu au second plan et que moi j'ai eu envie de redécouvrir, et j'ai eu envie de redécouvrir surtout ses écrits, parce que on enseigne parfois à Sciences Po ou dans les facs de droit une image un peu biaisée, c'est-à-dire celle d'un perdant magnifique, de quelqu'un finalement qui aurait eu des scrupules à avoir les mains un peu sales pour agir et exercer le pouvoir. Et en fait, je crois que cette image est vraiment trompeuse. C'est quelqu'un qui a été très courageux toute sa vie, et surtout c'est quelqu'un qui a une pensée très forte, très audacieuse et très exigeante, qu'il a développée pendant presque 50 ans, puisqu'il est mort en 82 sur sa table de travail en train d'écrire une note. Donc moi j'ai eu envie de redécouvrir cette figure un peu oubliée de notre vie politique.
Et François Mitterrand, lui, a bien compris ce qu'il devait à Pierre Mendès France.
Oui, Pierre Mendès France est en larmes, hein, lors de la cérémonie de passation qui a lieu à l'Élysée en 1981, et François Mitterrand l'embrasse. Il dit à Pierre Mendès France, c'est d'ailleurs très touchant de voir cet homme austère, rigoureux, pleurer. Hein, on voit ça dans les images de Lina. Et François Mitterrand lui dit, sans vous, rien n'aurait été possible. Ce qui montre bien que sans cette figure, mais surtout sans cette exigence, et cette pensée forte, que ce soit en économie, sur les institutions, la façon de gouverner, je crois que la gauche n'aurait pas eu cette matrice intellectuelle, cette rigueur qui a aussi permis à François Mitterrand de l'emporter.
Frédéric Potier, Pierre Mendès France a été président du Conseil, l'équivalent du poste de Premier ministre sous la 4e République, et à ce titre, il a contribué à la décolonisation. S'il y a un lycée Pierre Mendès France à Tunis, ça n'est certainement pas un hasard, mais au départ, comme tous les responsables de cette époque, il ne pouvait pas envisager de voir la France renoncer à ses colonies.
Oui, Pierre Mendès France, il est aussi le produit de son époque. C'est quelqu'un qui appartient au Parti radical socialiste, qui est issu de cette grande tradition des Lumières, des philosophes, du Grand Orient, des loges maçonniques aussi. Et c'est quelqu'un qui finalement voit plutôt l'Empire français, comme on dit à l'époque, sous un angle plutôt positif. Mais avec aussi des limites. Et au fond, ce qu'il essaye, lui, de penser avant d'arriver au pouvoir en 1954, c'est ce que pourrait être un empire français qui serait véritablement démocratique. Et donc, il y a des très belles pages, d'ailleurs, qui rassemblent, hein, qui rapprochent Pierre Mendès France et François Mitterrand sur la nécessité de démocratiser les colonies, d'y apporter l'éducation, le savoir, le bien-être, des infrastructures. Et donc, c'est quelqu'un qui va essayer de faire entendre et de pratiquer cette voie qui aurait pu être une forme de décolonisation progressive. Et c'est une voie qui a largement échoué, en dépit de quelques tentatives. Mais c'est quelque chose qui fait de lui une voix un peu unique dans l'histoire française. Et d'ailleurs, à cette époque, ça a été un des hommes les plus haïs de la République, pour cette raison-là.
Et justement, vous le montrez, avant de contribuer à l'indépendance de la Tunisie en tant que président du Conseil, Pierre Mendès France s'est opposé en tant que député à l'action militaire de la France en Indochine. Et c'est en tant que chef du gouvernement qu'il va entériner la défaite de la France après Dien Bien Phu.
Absolument. Dès les années 1950-51, Pierre Mendès-France est convaincu qu'en Indochine, la voie qui est choisie par le gouvernement et les gouvernements successifs d'ailleurs, qui est une voie de militarisation et de fuite en avant, est une voie sans issue. Et donc il le dit, il l'écrit et il l'assume. Et il le dit avec beaucoup de courage en disant que il faut avoir le courage de faire la paix, il faut aussi hiérarchiser, parce qu'on est, il faut le rappeler, en pleine guerre froide. Et donc envoyer à des milliers de kilomètres du sol métropolitain des milliers de soldats, ça a un coût humain, un coût financier. Et ça peut fragiliser aussi la défense française. Et donc, il se fait connaître aussi du grand public grâce à ça, hein, dans les années 50. Et en 53, il est pour la première fois appelé au gouvernement, mais c'est une tentative qui échoue parce qu'il n'arrive pas à rassembler de majorité sur cette question-là. Et il est finalement investi en 54 dans la foulée de la défaite de Dien Bien Phu, parce que lui dit clairement, il faut faire la paix, il faut négocier avec nos ennemis, parce que c'est le principe même d'une négociation internationale. Et il se donne, lui, 30 jours pour réussir, et c'est ce qu'il arrive à faire.
Frédéric Potier, votre livre remet en lumière ce que vous avez appelé la décolonisation oubliée. La France possédait des comptoirs en Inde, à commencer par Pondichéry. C'est Pierre Mendès-France qui a liquidé l'héritage de Colbert dans cette région du monde.
Oui, là encore, c'est une partie de notre histoire un peu oubliée, l'histoire de ces comptoirs des Indes, de Pondichéry. Donc c'est vrai que c'est des choses qui font un peu rêver, hein. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir des cartes postales ou des affiches qui datent des années 30. Et Pierre Mendès-France, lui, comprend très vite qu'au fond, à partir du moment où l'Inde devient indépendante, hein, en 1947, maintenir ces quelques comptoirs d'à peine 300 000 habitants séparés entre eux de plusieurs centaines de kilomètres est complètement irréaliste. Et donc là encore, il se confronte aux faits, il se confronte aux réalités, et il va négocier avec le premier ministre indien, hein, Nehru, cette décolonisation. Et cette décolonisation, finalement, elle se fait plutôt bien, elle se fait de manière pacifique, et il y a encore aujourd'hui des traces de cette décolonisation, avec des liens très forts qui existent avec l'Inde et avec l'Institut français de Pondichéry.
Avec une francophonie qui est encore vivante à Pondichéry.
Absolument.
Alors parlons de l'indépendance de la Tunisie, qui était un protectorat, un processus de décolonisation qui se fera alors que les Algériens, de leur côté, déclenchaient leur propre guerre de libération nationale. Quel rôle a joué Pierre Mendès-France dans l'indépendance de la Tunisie ?
Il joue un rôle majeur parce que Pierre Mendès-France, comme beaucoup de gens de sa génération, je le disais, hein, était au départ très attaché évidemment à l'intégrité de l'Empire français. Et en 53, il dit même que la Tunisie fait partie intégrante du dispositif de sécurité français, hein, et que Bizerte a la même valeur que Toulon. Donc c'est quelqu'un qui est aussi vraiment imprégné des idées de son époque, on dirait presque des préjugés de son époque. Mais c'est aussi quelqu'un qui rapidement tisse des liens très étroits avec la Tunisie. Il va aller en 53, parce que Pierre Mendès-France est avocat, je l'ai pas dit, défendre des nationalistes algériens accusés de manière injuste. Et d'ailleurs, il obtient leur libération au bénéfice du doute. Et ces premiers contacts avec la Tunisie font que en 1954, hein, dans la foulée des accords de Genève sur la paix en Indochine, Pierre Mendès-France a un geste très audacieux. Il se rend en Tunisie, il prononce un grand discours qui s'appelle le discours de Carthage, où il accorde hein, une forme d'autonomie interne à la Tunisie, ce qui prépare une décolonisation finalement assez progressive avec un transfert de compétences qui est organisé, qui est négocié et qui va aboutir à l'indépendance de la Tunisie quelques années plus tard.
Et vous vous demandez, Frédéric Potier, si le processus avec la Tunisie n'allait pas servir de laboratoire pour d'autres processus comme la décolonisation de l'Algérie. Mais là, évidemment, on est dans la politique fiction.
On est dans la politique fiction, mais Mendès-France lui-même le disait un peu, hein, dans plusieurs de ses écrits, il y a la trace très claire où Pierre Mendès-France dit que s'il avait pu mener en Algérie comme en Tunisie une approche pragmatique, progressive, en se fondant sur les élites locales, on aurait peut-être épargné à la France des années de déchirure et à l'Algérie aussi d'ailleurs. Donc je pense que ça c'est un des regrets aussi de Pierre Mendès-France qui, lorsqu'il est quelques mois au pouvoir en 56, hein, c'est Guy Mollet à l'époque qui est chef du gouvernement, Pierre Mendès-France est vice-premier ministre et il n'arrive pas à peser sur la décision de l'exécutif français, et on se retrouve dans un engrenage que vos auditeurs connaissent bien. Et donc cette voie est très singulière, cette voie de Mendès France, qui d'ailleurs très tôt après reconnaît qu'il faut négocier l'Algérie et l'indépendance de l'Algérie, et trouve que le général de Gaulle traîne un peu d'ailleurs. Donc là encore, c'est des pages à redécouvrir, parce que je pense qu'elles disent aussi qu'il y a eu des gens, il y a eu des personnalités politiques qui ont voulu aussi faire évoluer ce modèle colonial qui lui semblait complètement injuste et antidémocratique.
Frédéric Potier, vous consacrez aussi un chapitre à la diplomatie menée par Pierre Mendès France, et vous affirmez que c'était une diplomatie au service de la paix. Il a été, vous l'avez rappelé, en responsabilité au moment de la guerre froide. Vous montrez qu'il était tout sauf un Machiavel moderne.
Oui, la politique étrangère, à la façon de Pierre Mendès France, c'est une politique qui est fondée sur des valeurs. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on n'est pas du tout dans une approche des relations internationales fondée sur la force, fondée sur la puissance, fondée sur le secret, avec des diplomates qui négocieraient entre eux dans les chancelleries des accords que les peuples n'auraient pas à connaître. Non, Pierre Mendès France a une approche fondée sur la transparence, fondée sur le dialogue. Il considérait qu'il n'y avait pas des choses qui pouvaient être dites en public, et puis des choses qu'il fallait réserver aux négociations diplomatiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier, et le but même de Pierre Mendès France, d'une diplomatie, d'une politique étrangère, et là aussi est très précis. Pour lui, c'est la paix, c'est la prospérité, c'est le bonheur des peuples. C'est pas l'accession, c'est pas la recherche du prestige. Et donc c'est ce qui le distingue, par exemple, énormément du général de Gaulle. On a vraiment deux approches complètement différentes de ce qui doit être la diplomatie française.
À vous lire, on se dit que Pierre Mendès France, c'est un destin manqué. Quelqu'un qui avait des idées très progressistes, très modernes, mais qui n'a pas véritablement eu l'occasion de mener les politiques auxquelles il songeait, à l'exception du moment où il était président du Conseil.
Oui, il y a probablement un peu de vrai dans cela. Après, on peut pas évidemment réécrire l'histoire, hein. On peut pas réécrire l'histoire de la Ve République. Pierre Mendès France est battu par la vague gaulliste de 1958. Et après, c'est tout à son honneur d'ailleurs, il refuse de cautionner l'élection présidentielle au suffrage universel direct en 1965. Et donc il n'affronte pas le général de Gaulle. C'est François Mitterrand qui va à cette bataille électorale. Et donc c'est François Mitterrand qui, après, organise l'union de la gauche, les discussions à gauche. Et Pierre Mendès France s'éclipse un peu, et il est plus âgé, et il devient vraiment une figure morale, une figure intellectuelle, éloignée du pouvoir.
Frédéric Potier, il y a une phrase à laquelle tous les hommes politiques se réfèrent aujourd'hui: gouverner, c'est choisir. C'est une phrase de Pierre Mendès France. Cette phrase a l'air très simple, mais comment la comprenez-vous, vous?
Elle est essentielle, parce que gouverner, c'est choisir, c'est aussi gouverner, c'est renoncer, mais aussi gouverner, c'est hiérarchiser. Et c'est vrai que dans les temps un peu troublés qu'on connaît dans notre vie politique française, je crois que ça nous manque beaucoup. Cette idée selon laquelle, au fond, on ne pourrait pas tout promettre, on ne pourrait pas tout faire en même temps, et que les gouvernants, les hommes politiques, ont un devoir de vérité à l'égard des électeurs, pour leur dire non seulement ce qu'ils vont faire, mais comment ils vont le faire, dans quel calendrier et avec quels moyens. Et donc Pierre Mendès France, c'est quelqu'un qui faisait vraiment le pari de l'intelligence, le pari de l'intelligence démocratique. Il pensait vraiment convaincre ses électeurs, non pas les séduire, mais vraiment faire appel à leur raison. Et c'est quelque chose, je crois, qui nous manque beaucoup, à un moment où ce sont plutôt les peurs et les préjugés qui l'emportent.
La foi démocratique pour Pierre Mendès France, qu'est-ce que c'était?
La foi démocratique, c'est l'idée que finalement, il n'y a pas de définition de la cité idéale, il n'y a pas de définition de ce que serait un monde idéal chez Pierre Mendès France. Il y a plutôt une volonté d'organiser en commun un débat pour apporter des réponses à des problèmes. C'est quelqu'un de très pragmatique, Pierre Mendès France, très cartésien, très rationnel. Et au fond, cette foi démocratique, c'est ça. C'est l'idée que l'avenir est précisément ce que nous déciderons d'en faire ensemble. Et moi, je trouve ça d'une très grande modernité, d'une très grande force. Donc cette foi démocratique, c'est évidemment un pari, hein. La démocratie, c'est pas quelque chose uniquement qui relève du processus électoral, c'est un ensemble de choses, c'est l'équilibre des pouvoirs, c'est le respect de la justice, c'est un débat politique apaisé. Donc c'est un ensemble d'éléments qui font que collectivement nous arrivons à définir des choix qui nous engagent, qui engagent tout le monde et qui nous permettent de progresser.
Pierre Mendès-France a été incarcéré par le régime de Vichy, il a été résistant. Frédéric Potier, vous avez été délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT. Est-ce que Pierre Mendès-France a été confronté à l'antisémitisme avant et après la Seconde Guerre mondiale ?
Il a été confronté à l'antisémitisme toute sa vie, dès ses plus jeunes années engagé en politique dans l'Eure, en Normandie, où il fait front à des, il fait face à des attaques antisémites de la part de ses opposants. Mais c'est quelqu'un aussi qui est pour Vichy le bouc émissaire idéal, parce que il est juif, il est franc-maçon, il est proche de Léon Blum, il fait partie du parti radical socialiste. Et au fond, même si Pierre Mendès-France n'était pas lui-même croyant, et il le dit clairement à plusieurs reprises, il concentre sur sa personne beaucoup de préjugés. Il concentre sur sa personne, par exemple, des attaques de Jean-Marie Le Pen dès 1958. Et au fond, Pierre Mendès-France résume ça dans une formule qui est très juste. Il le dit dans une interview à la fin de sa vie. Il dit, tant bien même si lui-même oubliait qu'il était juif, ses adversaires ne manqueraient pas de lui rappeler.
Pierre Mendès-France, aujourd'hui, est une figure admirée, même si vous le dites, il est un peu oublié aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait sa place au Panthéon ? Est-ce que sa famille y est favorable ? Je sais qu'on en a parlé à une certaine époque.
Alors, dans l'histoire de France, oui, ça fait partie des géants de la République, des géants de la gauche française. Il se trouve que Pierre Mendès-France a choisi d'être incinéré. Et donc, il n'y aurait vraisemblablement pas de grande cérémonie de ce type-là. Mais c'est quelqu'un qui mériterait évidemment de revenir, je crois, au premier plan, comme une boussole, comme un repère. Plusieurs hommes politiques, d'ailleurs, y font référence dans leur discours, hein, que ça soit à droite, à gauche, ou dans la majorité présidentielle. Et donc, il n'y a pas de fils spirituel, où il n'y a pas d'héritier direct, mais il y a des valeurs, des références, et c'est peut-être ça qui est encore plus important que la figure de l'homme.
Merci Frédéric Potier, je renvoie nos auditeurs à votre excellent livre, vraiment très instructif, un livre qui s'intitule « Pierre Mendès-France ou la foi démocratique » et c'est publié aux éditions Bouquin. Merci.
Merci à vous.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.